À Thiaoui, il y avait une bonne soeur qui faisait l'école. On nous apprenait l'histoire de France. L'histoire, la géographie de la France. Et très peu sur la Nouvelle-Calédonie.
Histoire 2.
Ensuite, je suis parti dans les années 60 dans le petit séminaire de Canala. J'ai passé 6 ans là-bas. J'ai perdu le païki, ma langue. Parce que dans cette école, il fallait parler que le français. Et dès qu'on nous surprenait entendre parler nos langues, on prenait le fouet d'abord et ensuite on est puni.
Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 12 décembre 2021 et dans moins de 40 minutes, il sera minuit à Nouméa. Mais au moment où nous enregistrons cette émission, 4 jours avant donc, nous ne connaissons ni l'issue ni même le déroulement du référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci est le 3e des consultations prévues par les accords de Nouméa en 1998, dans le préambule desquels on lit ceci. Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. Nous parlerons aujourd'hui du passé de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce passé, voyez comme il pèse et s'attarde, et combien il est difficile en somme de sortir d'une situation coloniale pour faire société. Le témoignage que vous avez entendu est un extrait du disque accompagnant les sanglots de l'aigle pêcheur, livre somptueux évoquant la révolte kanak de 1917, dont le souvenir a ressurgi au moment des affrontements violents des années 80, nous aurons à en reparler. Et si le passé ressurgit, ce n'est pas celui d'une identité immuable, car, vous l'avez entendu aussi, celle-ci est toujours à construire. L'identité est devant nous. Avec coutume de rappeler Jean-Marie Tjibaou, grande figure du nationalisme kanak mort assassiné en 1989. C'est pour parler de ce mouvement historique, sans cesse contrarié, sans cesse relancé, que nous accueillons aujourd'hui l'historienne Isabelle Merle, que rejoindront les deux sociétaires du jour, Adila Benedjaizou et Pape Ndiaye. C'est maintenant sur Histoire 2. Isabelle Merle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire connectée des colonisations, notamment dans le monde pacifique. Et votre premier livre est paru en 1995 sous le titre « Expérience coloniale, la Nouvelle-Calédonie, 1853-1920 ». Il a été réédité en 2020 chez Anacharsis dans une édition augmentée. Il résultait d'une enquête auprès des descendants des colons, ceux que l'on découvrait en somme en métropole à la faveur des événements des années 80 et qui semblait témoigner de la continuité d'une époque que l'on croyait révolue, celle de la colonisation. D'où votre question en apparence simple, qu'est-ce qu'un colon ?
Alors c'était une interrogation en tous les cas qui m'intéressait depuis plusieurs années où j'avais eu l'idée de partir en Algérie d'ailleurs, puisque ce qui m'intéressait c'était les situations de colonisation, de peuplement, et je m'interrogeais en particulier sur ces Français ou pas, ou ces Européens, qui décidèrent à la fin du 19e siècle, dans ce second empire colonial français, de tout boucler et de faire la valise et de refaire leur vie aux colonies sous le drapeau français. Donc, la question que j'avais, c'est ces gens-là partaient migrants, d'une certaine manière, avec les aides de l'État, souvent, en tous les cas sous la protection du drapeau, contrairement à ceux qui décidaient de refaire leur vie aux États-Unis en immigration. Et d'ailleurs, c'était pas les mêmes, en fait. Et ceux-là qui partaient aux colonies partaient avec la protection du drapeau, avec des promesses. En Nouvelle-Calédonie, mais en Algérie aussi, en fait, ils ont eu des promesses de terre pour ceux qui sont partis comme colons. Le mot colon au 19e siècle est très, très attaché à la terre. On conçoit le colon, la définition du colon vient du latin, d'ailleurs, coloré, cultivé, et c'est lié à la terre à ce moment-là, et c'est l'attribution des terres pour des gens qui finalement procèdent parfois d'un retour à la terre. Pour ceux que j'ai étudiés qui partaient vers la Nouvelle-Calédonie, parfois des petites gens qui, refusant d'entrer à l'usine, préféraient une promesse au loin en partant vers le Pacifique.
Oui, parce qu'on parle toujours des bagnards, de la colonisation pénale, mais la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, donc qui débute en 1853, est fondée sur ce que vous appelez, Isabelle Merle, un véritable projet idéologique de peuplement qui est cohérent, volontariste, qui constitue une expérience originale, surtout à la suite de la grande révolte kanak de 1878. Il y a une émigration, vous le dites, volontaire, encadrée, notamment dans le nord de la Grande Terre, à Koné, Vaud, où se fondent des centres de colonisation libres. Donc ça, c'était votre enquête. C'était pas si facile, d'ailleurs, à ce moment-là, de vouloir travailler, j'imagine, sur les caldoches, sur les descendants de colons.
Alors, l'enquête portait doublement sur la colonisation libre et la colonisation pénale. Et l'enquête portait aussi sur les processus de colonisation, donc le projet d'État, qui effectivement s'organise en particulier après 1878, mais est déjà en germe dans le projet de bagne, qui est un bagne peuplant, sur lequel l'idée c'est d'installer des gens sur la terre. Ce qui est moins le cas en Guyane, même s'il y a un embryon, mais la Guyane ne donnera jamais les promesses qu'on pouvait pas tenir sous ce climat. Donc j'avais décidé de partir. Alors effectivement, la posture était un peu iconoclaste à l'époque. Bon, déjà, travailler sur les colons dans une perspective d'histoire sociale fine de ces populations était très dérangeant encore à l'époque. Oui. Dans les années 90, c'était très difficile de trouver un professeur de thèse qui vous suive sur ce terrain-là. Personne ne s'était engagé sur une histoire sociale, ni des pieds noirs, ni des caldoches, ce qu'on appelait les caldoches. Par ailleurs, j'avais une originalité, c'est que j'étais convaincu qu'il fallait absolument que j'opère un décentrement. Alors, je l'ai déjà opéré en partant en Australie un an auparavant pour préparer le terrain. Donc quitter la France et l'univers francophone, enfin voilà, l'univers français. Et puis j'avais l'idée qu'il fallait absolument aller faire un terrain, alors qu'en histoire c'est pas, j'aurais pu rester dans les archives d'Aix-en-Provence.
Vous faites, vous avez vu les archives, et vous avez pas entendu les témoignages.
Voilà, aussi. C'était pas l'idée juste de faire une visite qui compléterait, vous voyez, qui vous donne le sens d'eux. C'était l'idée de doubler l'enquête sur archives, qui était très importante pour moi, qui était guide quand même, de la doubler par une enquête orale auprès des descendants dans les familles pénales et dans les familles libres pour compléter, mieux comprendre et approfondir une connaissance des discours, des représentations, voilà, mais avec un questionnaire très très précis sur les souvenirs d'enfance.
Et ce questionnaire précis, il interroge la notion de situation coloniale. Et cette expression, il faut bien comprendre pour les auditeurs que c'est pas simplement un gimmick, un slogan. C'est d'abord un concept qui a été développé par l'anthropologue Georges Balandier au début des années 50. Vous lui avez consacré d'ailleurs une étude qui montre que c'est une notion qui est faussement évidente. La situation coloniale, c'est une relation de domination qui s'exerce entre deux sociétés qui sont radicalement hétérogènes et antagonistes et qui par force et par idéologie créent une relation de système, je dirais, qui produit hiérarchisation et fragmentation, c'est ça.
Au fond, oui, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse toujours, ça reste quand même au cœur de mes enquêtes, de mes préoccupations, c'est ces sociétés de colonisation nées de ce que Malinowski appelait un contact, mais que, évidemment, ça a été très critiqué. Malinowski, c'est les années 30. Malinowski voulait pas travailler sur les Européens, mais il était bien conscient qu'il y avait quelque chose. Et les suivants, ses élèves et Balandier, étaient des gens qui, travaillant sur l'Afrique noire, en fait, parfois l'Afrique du Sud, mais parfois Balandier n'était pas sur l'Afrique du Sud, se sont interrogés sur ces sociétés composites constituées dans ce mouvement de colonisation par des colons, des fonctionnaires coloniaux, des administrateurs, etc., des missionnaires, tous ce représentant-là, et une population dont le statut était indigène. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était étudier une totalité, cette société comme une totalité, alors qu'auparavant, on ne regardait que l'autre, l'indigène. Là, c'était l'idée qu'il y avait quelque chose à étudier en tant que tel dans la fabrique du monde moderne.
Alors justement, c'est ce que vous montrez dans un livre important, un autre, paru en 2019 chez CNRS Éditions, et que vous co-signez avec Adrian Mueckel, « L'indigénat, genèse dans l'Empire français, pratique en Nouvelle-Calédonie. Donc, l'indigénat, c'est une exception en droit, mais une exception qui dure. Et donc là, ça intègre, on en reparlera tout à l'heure avec Papendiaï, mais ça intègre l'histoire, l'expérience coloniale originale de la Nouvelle-Calédonie, je dirais à la retombée de toute l'histoire coloniale française.
Oui, alors on s'est intéressé en fait en rencontrant, en travaillant d'abord sur les colons, en travaillant sur la situation coloniale. Évidemment, dès les années 90, j'ai rencontré le régime de l'indigénat, particulièrement en Nouvelle-Calédonie, mais j'ai vite compris que ce régime-là n'était pas né en Nouvelle-Calédonie, que c'est un régime, alors les juristes disent dérogatoire, ils parlent pas forcément de régime d'exception, mais en réalité, dès le 19e siècle, c'est pensé comme un régime d'exception, au sens où il est dérogatoire du droit commun et il pose des contradictions par rapport aux principes fondamentaux du droit français. Et ce régime de l'indigénat, né en Algérie dans le contexte de la guerre, et a pour but, derrière les lignes de front, d'opérer, de consolider ce qu'on a appelé la pacification, c'est-à-dire l'ordre public colonial, oui, avec des mesures répressives spécifiques orientées sur les indigènes, de haute police, on y reviendra peut-être, et de police de proximité. Et ce régime a été étendu à l'ensemble des colonies françaises. À partir de l'Algérie, il part vers la Cochinchine, puis il part vers la Nouvelle-Calédonie et le Dahomey en 1887. En 1881, en Algérie et en Cochinchine. Puis après, il est répandu dans tout l'Empire, oui, sauf exception.
Alors justement, depuis 1946, le code de l'indigénat ne s'applique plus, mais son héritage est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est ce que vous écrivez dans l'épilogue de votre livre. Avec le processus actuel de judiciarisation de la coutume kanak et de polarisation de l'ordre administratif, il y a, je vous cite Isabelle Merle, un risque de reproduire les césures anciennes, coloniales, sur la base des statuts juridiques des personnes. Ce qui pose d'ailleurs le problème, je dirais embarrassant ou ambigu, des ethnologues qui étudient la coutume, qui font même la coutume, et qui, d'une certaine manière, si je vous entends bien, participent de ce système.
Où certains ont pu se mouler dans le droit colonial de l'époque et voilà, et prendre insuffisamment de distance par rapport aux façons dont avaient été pensés les droits coutumiers entre les deux guerres. Alors, le régime de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie, il a des spécificités dans son application, en particulier parce que il a véritablement englobé le statut de l'indigène jusqu'à réformer les ordres anciens, si on peut parler comme ça, en créant finalement des ordres administratifs et des responsabilités pénales confiées au chef, qui a construit un monde kanak en colonisation extrêmement impacté, je dirais, dans son organisation sociale. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui encore, il y a une mémoire de cet ordre en district, en tribu, en chef administratif, en les responsabilités pénales à l'intérieur de la tribu. Donc, ce genre de choses que l'indigénat a produit en Nouvelle-Calédonie en particulier, dont il y a des effets d'héritage encore très forts.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Adila Benedjaizou, bonjour.
Bonjour Patrick.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire ?
Alors moi, dans cette histoire, j'ai découvert Alban Bensa. Alors c'est une rencontre posthume, mais qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a beaucoup touchée.
Un grand ethnologue qui est mort en octobre de cette année et dont on parlera après ça.
I can barely move from bending down, down on my
parlons de la Nouvelle-Calédonie avec notre invitée Isabelle Merle et nos deux sociétaires du jour, Adila Benejaizou et Pap Ndiaye. L'identité est devant nous. Cette phrase de Jean-Marie Tjibaou que je citais tout à l'heure, eh bien le grand anthropologue Alban Bensa aimait beaucoup la citer lui-même. Nous avons eu envie de lui rendre hommage parce qu'il était adepte d'une ethnologie critique, refusant la coupure entre anthropologie et histoire, une ethnologie de l'action, une ethnologie des transformations sociales. Il disait, c'est en prenant part à la marche d'une société que l'anthropologue peut en saisir la dynamique profonde, Isabelle Merle.
Oui, alors merci Patrick, parce que vous me donnez l'occasion de dire un mot sur Alban Bensa et l'importance qu'il a eue dans mon parcours, puisque c'est suite à une rencontre avec lui dans un stage de terrain d'un DEA de l'ENS que qu'il m'a invité à travailler sur les Caldoches. C'est donc les Caldoches, c'est ces colons, enfin c'est les descendants de colons installés au 19e siècle, c'est les premières vagues historique. Et en fait, ça, Alban avait commencé à travailler en 77 dans le, en 73 même dans le, en Nouvelle-Calédonie. On était en plein dans les événements en 88 et il s'interrogeait sur ses voisins qu'il cherchait à fuir quand il arrivait en Nouvelle-Calédonie pour partir très vite dans les tribus puisqu'il supportait assez mal la société coloniale ou post-coloniale qui était encore là. Et néanmoins, il m'avait toujours dit que les Kanaks parlaient énormément de leurs voisins européens et que plus jeunes, ils trouvaient ça pas intéressant de prendre des notes ou de prendre acte, enfin voilà, de s'intéresser à ça. Et qu'il le regrettait beaucoup, puisqu'il y a toute une mémoire qui s'était perdue. Et donc là, il m'engageait sur ce travail, parce qu'il y avait une méconnaissance très forte de ce versant européen. Et je dois dire qu'il m'a énormément stimulé, accompagné dans ce travail d'enquête, et après, dans les réflexions sur l'histoire et l'anthropologie, et la façon de nouer un peu au plus dense cette histoire coloniale en tentant de saisir l'ensemble des versants, surtout les deux versants essentiels, monde colonisé et monde colonisateur.
Il a publié un magnifique livre en 2015, Les sanglots de l'aigle pêcheur, Nouvelle-Calédonie, la guerre Kanak 1917, avec Kakou-Yvon Gourméodeau et Adrian Mioutle. On l'écoute.
En 1915, la France demande à ses colonies des tirailleurs indigènes. La Nouvelle-Calédonie répond présente, un recrutement est organisé sur le terrain et une première vague de soldats calédoniens, mais principalement kanaks pour les trois quarts, vont partir en France. 400 mourront. Début 1917, la France souhaite un second recrutement, une seconde vague de recrutement, et là, beaucoup de kanaks refusent et ils exigent à la limite de partir, s'ils veulent bien partir, mais ils voudraient qu'on leur rende des terres, ils voudraient qu'on desserre l'étau colonial, qu'on mette fin aux corvées et aux réquisitions de travail, ils voudraient trouver toute leur place dans la Nouvelle-Calédonie qui est en train de se construire. Ces exigences leur sont refusées. Dans des cérémonies de réconciliation, soi-disant, ils sont enchaînés, arrêtés et envoyés à Nouméa, ils seront jugés en 1919. Cette histoire, nous en avons recueilli la mémoire depuis le début des années 70, et cette mémoire, elle s'est inscrite dans des récits, mais aussi et surtout dans des poèmes, des épopées, en vers de 8 pieds, que les Kanaks ont composés oralement, mais aussi par écrit. Et à cette époque, les Kanaks maîtrisaient très bien l'écriture de leur propre langue et se sont engagés dans un travail de mémorisation de tout ce qui a été survenu.
Pap Ndiaye.
En écoutant Alban Bensa, on pense au travail très patient qu'il a mené pendant des années de recueil des récits oraux, jusque et y compris ceux de la Première Guerre mondiale, ce qui est une manière aussi de relier la question kanak a une question coloniale plus large, celle de la mobilisation des soldats coloniaux de la Première Guerre et peut-être aussi celle de la violence, finalement. Moi qui ne suis pas spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, je suis frappé néanmoins par des formes de violence peut-être particulières, des formes de domination aussi particulières qui ont pu avoir lieu dans la situation coloniale de la Nouvelle-Calédonie et que l'on peut contraster avec celle qui existait en Indochine ou en Afrique équatoriale française, par exemple.
On peut d'ailleurs citer le livre de Michel Nappels, Conjurer la guerre, violence et pouvoir à Wailou, Nouvelle-Calédonie. Isabelle Merle, cette question de la violence coloniale, c'est quand même une des spécificités aussi de l'histoire de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie.
Oui, tout à fait. En tous les cas, c'est clair que si on a travaillé avec Adrienne aussi longtemps sur le régime de l'indigénat, c'est que ça nous tenait à cœur au sens où la question de la violence, de la coercition dans ce pays, de la contrainte, était extrêmement frappant. Alors je voudrais rappeler d'abord que le peuple kanak est un petit peuple et que c'est un peuple qui s'est qui a une forte conscience du fait d'avoir été minorisé dans le pays. Et un peuple minoritaire, en petit nombre, est un peuple beaucoup plus vulnérable à la pression coloniale. Ensuite, c'est un petit territoire où le contrôle social était beaucoup plus facile à exercer que sur les grands territoires, par exemple, de l'Afrique subsaharienne, ou même de l'Algérie, probablement, où des segments entiers pouvaient échapper quelque part à l'emprise. Donc, d'une certaine manière, la Nouvelle-Calédonie était un territoire sous emprise de façon forte. D'autant plus que le régime de l'indigénat, tel qu'il s'est appliqué, a consolidé un ordre foncier ségrégatif lié à des réserves indigènes. C'est quand même le seul territoire des colonies françaises dans lequel ont été organisées des réserves indigènes du type réserve Native American. C'est-à-dire des terres réservées et fermées que le régime de l'indigénat est venu clore, fermer grâce à des règlements d'interdiction de circulation. Donc ça, c'est extrêmement fort parce qu'il y a eu une ségrégation par rapport au reste de la population en termes spatiaux, un refoulement sur ces territoires évidemment appauvris, vous pouvez l'imaginer, et un enfermement dont parlait Jean-Marie Tchibaou et dont tous les Kanaks se souviennent, cette notion d'interdiction de circulation qui a évidemment énormément marqué le monde kanak, puisque les liens qui étaient très élargis dans ce territoire et les mobilités ont été largement restreintes.
Alors, c'est ce passé qui revient, qui est évidemment un passé violent, qui est une expérience de l'histoire. Et bien, justement, Alban Bensa l'a collecté par cette poésie narrative qui en est, en somme, la condensation versifiée qui témoigne de la manière dont les Kanaks intègrent le point de vue des colonisateurs et leur mode d'action. On en entend un extrait. Les sanglots de l'aigle pêcheur. C'est quand même très beau, hein, Adila Benedjaizou.
Un magnifique texte que j'ai découvert en même temps que d'autres textes d'Alban Bensa et qui m'ont particulièrement touchée. D'abord, pour le dire simplement, ça m'a fait très plaisir qu'ils s'en prennent à cette forme d'anthropologie qui a toujours un mythe fondateur pour tout expliquer, aussi bien la façon dont les gens s'habillent, les relations entre hommes et femmes, la manière dont on porte les enfants et la couleur du chapeau. Et cette espèce de cette anthropologie-là, qui a tendance à renvoyer l'autre à une pensée primitive, à une forme d'exotisme, il préconise de s'en défendre en utilisant, ce qui m'a encore plus plu, la micro-histoire, c'est-à-dire de regarder les choses plutôt par le petit bout de la lorgnette, plutôt des destins singuliers. Et ça m'a non seulement convaincue, mais en plus fait comprendre d'une certaine manière ce que je faisais un peu dans cette émission, Patrick.
Ah oui?
C'est-à-dire j'ai compris pourquoi j'étais cette espèce d'historienne du dimanche qui ne s'intéresse que à des destins microscopiques. Parce que justement, je pense que plus souvent que je le voudrais, je me retrouve de l'autre côté de cette ligne de grand partage dont parle Alban Bensa, du côté du « eux » plutôt que du « nous ». Et que ma manière de me défendre de ça, c'est l'histoire et l'incarnation.
Ben, on est tous des historiennes et des historiens du dimanche, puisque c'est dimanche. Mais Adila Benedjaizou, par exemple, vous vous êtes intéressée à la situation des Kabyles en Nouvelle-Calédonie.
Mohamed Ben Ahmed, un arabe, comme on dit à l'époque, a assassiné un des principaux chefs kanak qui menait la guerre de 1917. Et ce Mohamed Ben Ahmed n'est pas justement le premier arabe à avoir tué des kanaks en Nouvelle-Calédonie. Car il se trouve que, à la suite de la grande insurrection de 1871 en Algérie, près d'une centaine de condamnés algériens sont déportés en Nouvelle-Calédonie. Et on le sait, une partie d'entre eux vont aider les Français à écraser le soulèvement kanak de 1878. Dans les rapports, ils sont souvent décrits comme des soldats courageux et féroces. Alors, comment des colonisés rebelles qui ont subi et la violence coloniale, qui ont été spoliés de leurs terres, qui ont subi l'exil, en arrivent à s'allier à la puissance coloniale pour se battre contre d'autres colonisés, ça, c'est le grand paradoxe. On pourrait donner plein de raisons, évidemment. Il peut y avoir l'appât du gain, le désir de plaire à la puissance coloniale pour obtenir quelque chose. J'ai le sentiment que la raison principale, c'est justement le fait colonial. C'est justement parce que la colonie, quand elle crée une différence entre les colons et les colonisés, elle ne crée pas que deux mondes. Elle crée souvent plusieurs mondes hiérarchisés avec des gens, des subalternes, comme vous le dites, Isabelle Merle, qui ont des intérêts contradictoires et souvent dont l'intérêt immédiat est de se battre entre eux. Mmh. Et pour moi, c'est sans doute un des pires cadeaux, le cadeau empoisonné de la colonisation, c'est que aujourd'hui, on doit vivre non seulement entre descendants de colons et de colonisés, mais aussi entre descendants de colonisés qui ont des antagonismes parfois durables.
Oui, Isabelle Merle, vous vous êtes intéressée effectivement à cet événement subalterne et à sa mémoire, dont la complexité exprime bien ce qu'est une situation coloniale, donc l'assassinat à Koné d'un chef kanak de la guerre de 17, dont on parlait justement, par cet arabe. Mais d'une certaine manière, c'est une façon de sortir aussi du, je dirais, du vis-à-vis colonial, c'est-à-dire d'intégrer dans une histoire connectée des colonisations, Pape Ndiaye, eh bien l'histoire de la Nouvelle-Calédonie à son espace, qui est l'espace pacifique et même au-delà.
Il y a plusieurs espaces emboîtés. Il y a l'espace de l'Empire français, avec des circulations entre les différentes parties de cet empire, y compris l'Afrique du Nord. Il y a aussi l'espace pacifique, qui va connecter la Nouvelle-Calédonie à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à d'autres îles aussi de Polynésie ou de Mélanésie. Et puis, bien sûr, il y a un espace que l'on pourrait qualifier de politique, qui va être celui de la manière dont les Kanaks vont se saisir de discours, d'idéologies politiques qui traversent l'ensemble du monde pour les faire leur et pour en faire des armes anti-coloniales. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi à regarder la manière dont les Kanaks s'inscrivent dans une histoire qui est celle des luttes anti-coloniales et qui est une histoire globale.
Et c'est avec tous ces espaces emboîtés et tous ces temps connectés qu'on a à faire pour refaire société aujourd'hui. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Telle est la question posée par voie référendaire aujourd'hui à tous les résidents du territoire pour la troisième fois et pour la dernière dans le cadre des accords de Nouméa. Écoutons Michel Rocard en parler. C'était le 26 juin 1988, donc tout de suite après ce qu'on a appelé le drame d'Ouvéa.
Depuis six semaines, pour la Nouvelle-Calédonie, je n'ai pas eu d'autre préoccupation que de tenter de renouer les fils du dialogue. Ces fils du dialogue, on pouvait les croire rompus par des décennies d'incompréhension et d'épreuves, par trop de morts dans toutes les communautés. J'ai envoyé sur place une mission du dialogue. Elle a permis aux uns et aux autres de reconnaître que le retour à la paix civile était la condition majeure, essentielle, pour que les populations de Nouvelle-Calédonie puissent maîtriser leur avenir.
On retrouve ce phrasé avec plaisir et émotion. Isabelle Merle, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, ça interroge, je conclurai vite, mais il faudrait méditer sur les paroles de Michel Rocard, sur le dialogue et sur la compréhension, enfin l'écoute des uns et des autres, puisque le référendum, là, est finalement engage un problème, engage une sorte d'impasse, puisqu'une partie de la population, en particulier du côté indépendantiste, a proposé la non-participation. Donc on est dans dans ce que craignait Rocard, c'est-à-dire le dissensus et non pas aller ensemble à la dernière consultation, ce qui aurait été un schéma beaucoup plus positif pour le dialogue à venir.
Est-ce que ce passé qui ressurgit sans cesse, et cela que vous avez au fond étudié dans vos premières enquêtes, Isabelle Merle, vous disiez fort bien que au fond du passé, je vous cite, on ne parlait guère dans ces milieux caldoches de brousse jusqu'à ce que les événements des années 80 viennent brutalement rappeler les ingrédients d'une histoire racontée par une jeunesse kanak dont la parole se libère. Mais comment on peut se libérer de ce passé? Comment on peut construire une identité? Est-ce que ce n'est qu'un fardeau ou est-ce que dans ce passé, justement, il y a des ressources d'énergie, d'intelligibilité et de mobilisation?
Alors, en tous les cas, je pense qu'il faut élargir le propos à la France, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'un passé qui pèse sur une situation locale et des populations locales, mais qui nous interpelle, nous, sur le retour, de posture qui serait nourrie d'un passé impérial, et on ne cesse d'en parler. Et finalement, le rapport avec la Chine, là, rappelle des discours géostratégiques remarquablement impériaux. Enfin, qui la grande France, la plus grande France, et donc... J'insiste sur le fait que ça engage aussi une réflexion sur la façon dont la France travaille cette histoire de la colonisation sur ces territoires qui sont encore sous sa souveraineté. Sur le local, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis 30 ans, il y a eu un vrai travail des acteurs politiques, des acteurs socio-culturels aussi. Il y a eu d'énormes changements dans ce pays, et je les ai vus, avec une sorte d'idée émergente d'un peuple calédonien très un socle commun qui a été consolidé par l'accord de Nouméa en réservant une citoyenneté, en gelant un corps électoral sur des bases d'appartenance historique, avec le rappel du président actuel du gouvernement qui, dans son discours de politique générale, parle de lieu d'appartenance et de la nécessité de refonder une nouvelle Calédonie avec ce souci des liens et du maintien des liens et du dialogue. Et on craint que, c'est en dentelle puisque c'est le défi auquel les Calédoniens sont confronté, et ça n'est pas simple, c'est effectivement de sortir d'une situation coloniale et de refaire société sur un nouveau pacte qui permette de relancer quelque chose, enfin une sorte d'avenir ou de projet pays. Et on voit bien que depuis 30 ans, cette idée pays, cette idée peuple calédonien avait avancé. On espère qu'elle ne sera pas abîmée. Et qu'elle ne sortira pas abîmée de des conditions de cette dernière consultation.
L'identité est devant nous. C'est une manière de dire, au fond, la nécessité d'une politique dynamique de mémoire qui est donnée à voir, d'ailleurs, dans le centre culturel Chibaou, construit par Renzo Piano à Nouméa et auquel Alban Bensa a beaucoup participé. Merci Isabelle Merle, merci Papendiaï et Adila Benedjaizou. Lisez Alban Bensa, lisez les sanglots de l'aigle pêcheur, entendez ces chants kanak, on en a entendu quelques extraits, j'en donne une traduction pour terminer. Vous connaissiez notre bonne volonté, vous nous avez contraints et poussés à partir, jetés à la mer, nous avons dérivé à l'aveuglette, enveloppés par la nuit et entourés d'obscurité. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugien. La technique était assurée aujourd'hui par Éric Boisset. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous parlerons du peintre Répine avec l'historienne Sabine Dulin. Bon dimanche sur France Inter. Après le journal, place au grand air avec Denis Chessou et CO2 Mon Amour.